Haute fréquence.
Les petites histoires des religions.
On en arrive maintenant à la partie dossier de ce Haute fréquence et on est avec vous, Noriane Rapin, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Alors ce soir, vous nous proposez un peu de réflexion existentielle.
Je dirais même plus de réflexion philosophique dans un atelier bien particulier puisqu'il s'adresse à des personnes âgées.
À des personnes âgées, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'avoir des ateliers philo qui s'adressent à des jeunes ou voire à des enfants.
Eh bien, deux enseignants ont décidé qu'il valait la peine de s'initier à la philosophie, quel que soit son âge. Frédéric Huguenin, enseignant de philo au gymnase d'Yverdon, et Vladimir Loncard, qui est enseignant pour les jeunes en rupture, ont décidé de lancer le projet Filage. Pour l'instant, ça consiste en des ateliers de philosophie au Parasol, qui est un centre d'accueil temporaire montreusien.
Ok, et concrètement, on discute de quoi dans ces ateliers?
Alors, ils ont pu discuter de thèmes, par exemple le travail ou l'égalité homme-femme, mais en l'occurrence, ils ont décidé de faire une séance sur Nietzsche.
Nietzsche.
Ils ont choisi un passage du Zarathoustra qui parle des trois stades de la métamorphose de l'esprit.
Oh la vache, c'est ambitieux, non?
Mais ça se prépare une séance comme ça, figurez-vous Guillaume. Je suis donc allée chez Vladimir Loncard le jour où ils ont mis sur pied cet atelier. Nous sommes dans son salon, autour d'un café turc bien serré, au dernier étage d'un immeuble lausannois.
Du coup, est-ce que je remets en dernier
moi
café?
Moi, ça me va, non, ça me va. Mais on peut partir. Alors, projection d'une illustration de Nietzsche.
Voilà.
Biographie. Ah oui, demandez, effectivement.
Ouais. Demandez d'abord, parce que si, je sais pas, tout le monde a lu, tout le monde est au courant, ouais. Et puis tout le monde sait, c'est bon. Mm-hmm. Par contre, mettre certains repères bibliographiques et sur sa vie, etc.
Oui, alors ça, je peux le faire, à plaisir. On partirait de leur connaissance. Biographie, l'illustration, on projette en parallèle. Mais je pense que l'extrait que tu proposes, il est intéressant. Il est super connu, mais l'extrait du Zarathoustra,
oui.
Avec les trois stades, on dérive de sa vie à Zarathoustra. Moi, je peux en parler. Ben, je suis en plein dedans hein, maintenant. Donc je peux en parler brièvement. Et on leur lit l'extrait. On leur lit l'extrait du Zarathoustra qui est court avec les trois stades. Et c'est l'occasion après de démarrer sur d'expliciter les stades.
Et puis de leur demander où c'est le port d'entrée pour une discussion, d'un débat, d'un dialogue partagé du logos. Et puis de dire vous vous situez où. Et puis effectivement, ce serait de dire est-ce que vous êtes des enfants. Et ça, c'est beau de demander ce type de questions.
Alors Frédéric Huguenin, vous êtes l'initiateur du projet Filage. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ça?
À la base, c'est une idée qui date d'un certain temps, de l'époque en fait où ma grand-mère se trouvait dans un EMS. Et puis, j'étais allé la trouver un jour, et ce jour-là, on proposait aux résidents une séance d'animation. Ma grand-mère avait toute sa tête à l'époque, et donc j'ai assisté avec elle à cette séance, ne sachant pas vraiment à quoi m'attendre. Et la séance en question consistait en fait à rappeler aux usagers les capitales des cantons suisses. Voilà, c'était à peu près tout. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, mais c'est vraiment dommage qu'on ne fasse pas plus que ça. Je suis certain qu'il y a des personnes qui peuvent aller un peu plus loin que simplement travailler, on voit bien l'idée de la mémoire, mais aller un peu plus loin et notamment activer ou réactiver leur faculté de penser.
C'est plutôt maintenant la mode de faire de la philo pour les enfants. Vous avez pris la vie par l'autre bout, si j'ose dire. C'est quoi la différence?
Elle est très à la mode, cette philosophie pour enfants, on en parle beaucoup. Et elle est, pour moi, elle consiste un peu à instrumentaliser la philosophie. C'est-à-dire que on se dit à une époque, finalement, où certains jeunes se radicalisent, basculent dans des formes d'extrémisme, on se dit, tiens, ce serait peut-être intéressant de faire de la philosophie avec eux, ça pourrait éviter ces dérives. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne développe pas de tels projets pour des personnes qui, par définition, n'exercent plus d'activité professionnelle, et donc on les pense parfois comme inutiles. C'est un terme un peu dur, mais c'est la manière dont certaines personnes se considèrent. Et c'est un peu pour lutter contre cette espèce de mode de l'instantanéité, cette mode de l'opportunisme en philosophie, que je me suis dit, mais allons la proposer à des personnes qui ne sont plus des citoyens devenir, qui ont une vie citoyenne derrière elles. Permettons-leur d'exploiter cette expérience de vie, permettons-leur peut-être de retrouver, comme je disais, une forme de dignité qu'elles peuvent penser avoir perdue. Il faut faire attention à ne pas trop éclater le propos, à mon avis.
Ouais, moi je vois assez bien comme ça. Dans le sens, on y va avec cette idée des trois stades de développement de Nietzsche.
Faut mettre en perspective l'extrait dans le Zarathoustra. Moi je présenterai ça. Ouais, ça me va bien.
Et puis aller vers donc autant loin que eux le désirent, parce que la parole, comme dit Vanessa, la parole elle est prise, dans le sens eux ils parlent beaucoup, ils ont beaucoup à dire, ils ont envie de partager, ils ont envie de discuter, ils ont des expériences, donc aller suivre, on va suivre aussi ce que eux ils vont amener.
Et du coup, l'élément déclencheur pour mettre en place ces ateliers de philosophie, ça a été vous, Vladimir Lonkar. Comment est-ce que vous avez mis en pratique ces ateliers?
Alors, on a contacté une connaissance qui gère un CAT que je connais depuis l'université. On lui a proposé. Elle est une jeune fille dynamique qui est intéressée à toutes sortes de projets. Et qui a tout de suite dit oui, super, génial, elle a proposé aux usagers. Alors, au début, il y avait la première question, c'est. On a commencé par nous présenter. Donc, la première question qu'on a eue, c'est mais qu'est-ce que la philosophie? Et je me rappelle que nous, on s'est regardé et qu'on a un peu hésité parce que qu'est-ce que la philosophie? C'est une des plus grandes questions de philosophie. Donc, pour répondre, c'est M. Guenin qui a donné une définition classique pour commencer, pour donner un peu les bases.
Je crois que j'ai dû dire l'amour de la sagesse, mais il fallait définir amour et sagesse après. Voilà, donc c'était bien parti pour 2 heures. Et moi, il me semble, dans mes souvenirs aussi, qu'il y avait une espèce de, comment dire, je dirais peut-être pas de méfiance, mais elle se demandait un peu finalement ce qu'on allait venir faire avec elle.
Ce serait intéressant.
L'extrait, il est assez court. Hein. J'ai pas le livre avec moi, mais il est assez court. C'est au début du Zarathoustra. Mm-hmm. Là, le lire, mais très lentement, bien articulé, toutes ces questions, pour que tout le monde nous comprenne bien. Et ensuite, je pense que partir de l'extrait en lui-même, c'est déjà bien. Ça permet quand même de parler d'un philosophe important, qui est souvent mal compris, qui est souvent...
Ça, je mettrai...
Ça va faire partie de la espèce de démystification aussi de Nietzsche.
Comment est-ce que vous avez pensé vos ateliers?
On est en construction. En ce moment, on est en train d'évaluer, d'apprendre nous-mêmes comment faire face à personnages et à prendre en considération toutes les difficultés qui vont avec l'âge, les personnes qui voient mal, les personnes qui entendent mal. Donc le projet, il est en construction et qu'on apprend. Parce qu'on a une expérience les deux avec les jeunes, et puis on a pratique, donc on est en train de créer cette pratique
de façon plus concrète. On détermine en fait un thème, comme on vient de le faire pour la prochaine séance, avec un petit canevas, c'est-à-dire qu'on a une idée quand même de là où on aimerait aller. Mais en même temps, on ne tient pas absolument à aller à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on compte un peu sur nos compétences et puis notre culture philosophique, entre guillemets, pour rebondir et surtout pour laisser la discussion en fait aller là où elle a envie d'aller.
Les trois stades, il faut
on les lit, et puis ensuite on les laisse les interpréter. On leur demande ce qu'elles pensent de ces trois stades, comment est-ce qu'elles lisent une espèce de parabole finalement. On peut faire comme ça.
Ouais, ça peut être intéressant, vraiment. Puis de voir, ça va être intéressant parce qu'on a Jean qui est scientifique, elle va vouloir chercher les catégories de la définition du stade, alors que Claudette, elle va aller dans le désir, l'émotion, à dire quel est le désir lié à ce stade, qu'est-ce que ça m'évoque, dans les souvenirs. Donc on aura un bon débat là, qui se prépare.
Ouais. Je trouve que qu'est-ce que la philosophie peut amener à une personne?
J'aurais cité Socrate avec « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». dans le sens qu'effectivement, actuellement, je suis assez convaincu qu'on est dans un monde très marketing, très avec des mythes d'éternelle jeunesse et qui joue sur un certain type de passion. Alors la philosophie, elle est une manière de dire non, réfléchissons vraiment où on en est, qu'est-ce qui se passe dans ce monde.
J'ajouterais que, moi je dis souvent ça à mes élèves, je leur dis la philosophie finalement, entrer en philosophie c'est accepter l'idée que rien ne va de soi. Et c'est clair que quand on a l'impression que tout est évident, que tout va de soi, on a de la peine à entrer en philosophie. Et en fait, d'une certaine manière, et là je cite un philosophe qu'on aime bien les deux, Alain Guyard, philosophe français qui fait des shows, mais qui disait la philosophie elle est là pour emmerder. Voilà. On n'est pas là pour conforter les gens dans leur certitude, on n'est pas là dans l'optique de dire aux gens « vous avez raison », etc. Voilà ce que signifie tel mot, mais on est là pour désécuriser les gens. Mais dans cette espèce de désécurisation, il y a quelque chose d'assez vital, c'est se sentir vivre, se sentir exister. Je pense qu'on a une séance intéressante. Déjà rien, à mon avis, que l'extrait lui-même, comment est-ce que chacune comprend les stades, qu'a voulu dire Nietzsche, où est-ce qu'elle se situe, je pense que là, il y a déjà beaucoup. Tu vois, il y a pas mal.
C'était Frédéric Huguenin et Vladimir Loncard, enseignants de philosophie à votre micro, Noriane Rapin. Alors, du coup, on a entendu la préparation, les raisons qui les motivent, mais concrètement, ça se passe comment ces ateliers?
Alors vous pensez bien que j'y suis allée, hein, début juin avec mon micro. Bienvenue au Parasol, au centre-ville de Montreux, c'est au rez-de-chaussée d'un EMS. Imaginez-vous, il y a les œuvres des usagers au mur, des grandes tables où on peut discuter. Et comme c'est la fin de la journée, tous les usagers n'ont pas pu rester. Et ils sont une petite poignée, attablés, en attendant que l'atelier commence. Les deux enseignants viennent d'arriver et il y a de l'ambiance.
Mais bonjour, mesdames.
Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est la désertion.
Non.
Ouais. Nous avons
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bien.
Ah, bien sûr.
Comment pourrais-je vous oublier?
Jean,
trop cool. Nice to meet you.
C'est ça.
Salut, parfait. Ça va?
Bien sûr qu'on se rappelle.
Mais bien sûr, quelle surprise. Non, j'entends.
Vous aimez bien?
Vous reconnaissez les personnes que vous voyez, de combien vous
toujours bon, mais répondant.
Ça va.
Mais du coup, je sais pas, autrement, il y a possibilité de faire là au bout.
Ouais.
Mettez-vous comme vous voulez, hein.
Ouais, je pense pas.
Moi, c'est juste que j'ai demandé qu'elle soit face à l'écran, qu'elle puisse voir.
Oui, ça, oui, complètement.
Voilà. Mais après, vous mettez à côté, au milieu.
Alors, alors peut-être.
Assis sur la table, je m'en fous, hein.
Ça, non, peut-être pas, mais par contre, au bout, on se met au bout.
Ouais, ok.
Hein, sinon, ça finit,
ouais.
Donc, vous connaissez déjà le philosophe.
Oui, mais le nom?
Nietzsche.
Ah, Nietzsche, Nietzsche. C'est connu.
Friedrich Nietzsche. Oh,
oui,
ou Nietzsche. Ou Nietzsche.
Oui, mais c'est connu, mais je ne sais pas.
Après, qu'est-ce qu'il a dit?
Après ce qu'il a. Ouh là là.
Là, c'est plus compliqué, hein.
Oui.
Est-ce que vous le connaissez un petit peu?
Non, rien du tout.
Que le nom?
Non. Mais peut-être que. Je ne sais pas, je me rappelle un
moment. Il voulait être seul pour créer, et il a écrit des textes qui sont évidemment importants en philosophie. Et il y en a un. Peut-être que le nom vous dira quelque chose. Il y en a un qui est un des plus célèbres de Nietzsche, qui s'appelle « Ainsi parlait Zarathoustra ». Vous avez entendu déjà ce nom, quelque part?
Oui, mais je ne sais pas qui c'est, mais à part ça, je sais que...
C'est familier.
Oui,
c'est familier.
Alors, c'est un texte particulier. Il a un peu la forme d'un évangile. Et en fait, l'idée générale du livre, c'est donc ce personnage de Zarathoustra, dont Vladimir vient d'évoquer l'origine, qui s'était retiré du monde sur une montagne, et puis il décide de redescendre. Donc il redescend parmi les hommes pour leur livrer des réflexions. Puis dans la plupart des cas, les gens ne l'écoutent pas. Et c'est très intéressant parce que ça rappelle un autre personnage qui n'a pas toujours été forcément écouté aussi. Si vous voyez à qui je fais allusion.
Il y en a beaucoup. Einstein. Non.
Non,
mais on l'a écouté, Einstein.
On l'a écouté, Einstein. Et il n'était pas dans une
caverne. Oh, I'm sorry. Moi, je pensais que vous voulez dire qu'Einstein n'écoutait pas. Je voulais
casser
la gueule.
Moi, j'adore.
Il est mon héros.
Mais il était méchant avec sa femme.
Oh, je m'en fous de ça.
Je vous adore, Jim.
On quitte notre atelier philo quelques secondes pour prendre des nouvelles de la route.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Lausanne-Vevey, un véhicule en panne perturbe la circulation entre Belmont et l'aire de service de Lavaux en direction de Vevey. Sur l'axe Chiasso-Lucerne, on compte dorénavant 2 km de bouchons entre Quinto et l'entrée sud du tunnel du Gothard en direction de Lucerne, soit une attente d'une demi-heure environ.
Le petit texte que j'aimerais partager avec vous donc se trouve dans le livre Zarathoustra. Le texte s'appelle « Les trois métamorphoses ». Et dans ce texte, Zarathoustra, ce personnage descendu de sa montagne, présente aux habitants d'une ville trois métamorphoses. Voilà ce que dit Zarathoustra de cette métamorphose du chameau. « Je vais vous dire les trois métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit se change en chameau, le chameau en lion et le lion en enfant pour finir. » Si on sort un peu du premier sens du texte, si on quitte le premier sens des choses, c'est qui pour vous ? C'est qui le chameau pour vous ? Ça correspond à quelle attitude ? À quel comportement ? Qu'est-ce que vous diriez ?
Quelqu'un qui n'a pas de confiance en lui-même, mmh. qui ne s'aime pas du tout.
Intéressant, ouais. Vous, Graciela, vous voyez des... Qui pourrait être ce chameau ?
Pas tellement, non. J'écoute plutôt parce ouais, ouais. que. Mmh. Mmh.
Mais ça pourrait être qui ce chameau finalement, si on cherche encore un peu plus loin.
On pourrait dire que c'est le Christ, mais ça mmh. va pas avec ces
intéressant.
Idées,
mmh.
Mais c'est vrai.
Oui, ouais, bien sûr. Le prendre là, c'est une...
prendre le...
la croix,
la souffrance, la croix, la souffrance.
Oui, ouais.
Intéressant.
Mais qui d'autre fait une bêtise comme ça ? Franchement,
c'est... Il y en a beaucoup, non ?
Alors, il faut...
Quoi ?
Il y en a beaucoup, non ?
C'est vrai ?
Non, je demande.
Alors, expliquez-nous ça, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi on fait ça.
Alors, dans ce que vous avez dit, il y avait des très bonnes idées. Hein, l'idée de porter, finalement, sa croix, on peut le dire au premier sens du terme ou au deuxième.
Oui.
L'idée de se mettre des charges sur les épaules... On peut interpréter hein, ça comme les gens simplement qui suivent.
Quelle charge on pourrait se mettre sur le dos ?
Les problèmes des autres.
Mm-hmm. Ah oui, donc écouter, et puis être toujours oui. écouter les autres.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y aurait encore ? Quelle charge, Graciela, quelle charge tu as portée dans ta vie ?
Plusieurs, mais il faut se débrouiller aussi soi-même, non ?
Oui. Donc, par exemple, travail, je ne sais pas.
Ah non, le travail, ça allait justement, mais moi, j'ai perdu mon père très jeune, et puis après, il y a eu tous les problèmes. Oui, puis maintenant, peut-être, c'est différent, hein, parce qu'on parle plus facilement. Hein.
Ouais.
Mais bon.
Même parce qu'avant, on n'en parlait pas, des problèmes, justement.
Non, je ne crois pas tellement.
C'est un peu débrouillez-vous.
Non, oui, puis même ça.
Justement, en fait, le chameau, prenez, et puis...
Mmh. Oui, moi j'avais 9 ans que j'ai perdu mon père angine de poitrine foudroyante, vous voyez, sous mes yeux en 10 minutes. Alors moi, à Noël, mes tantes, on disait, tu sais que maintenant c'est toi qui... Attends, voir, comment c'était ? C'est moi qui, quand tu seras grande, c'est toi qui devras t'occuper de ta maman. Enfin, vous voyez, papa me dire la pauvre, je sais pas quoi, non. Ouais. C'était...
Ça, c'était lourd.
Oui, bah oui, moi j'aurais bien... Mmh. Oui, oui. Non, puis je crois pas qu'on ne pouvait pas tellement discuter avec d'autres, hein, comme ça.
Bah, exprimer ce que vous ressentez.
Oui, je pense.
C'était, vous deviez garder ouais,
pour vous. Oui, il faudrait se débrouiller ouais. soi-même. D'accord. Je crois, hein, mais c'est peut-être pas juste que je dis.
C'est ce que vous avez vécu.
Non, mais c'est... Oui, voilà.
C'est intéressant dans ce que vous dites, parce que quand on lit Nietzsche au pied de la lettre, il est assez radical, il est assez carré. Puis ce chameau, finalement, c'est toute personne qui... n'arrive pas à s'affirmer et qui fait ce qu'on lui dit de faire.
Ah, oui.
Et c'est une critique, évidemment, chez Nietzsche. Mais quand vous parlez de votre vie, on réalise bien que c'est difficile. Vous, Jean, vous reconnaissez dans cette... vous reconnaissez dans cette métaphore du chameau
de porter...
Pas du tout.
Non. Je porte pas les choses pour les autres.
Vous n'avez jamais eu l'impression de...
ça y est, ça commence
à porter des charges, oui, d'obéir.
Oui, dans le temps passé, oui.
C'est-à-dire
Parce que oui, simplement parce que j'ai évolué dans une famille strapauvre, avec une maman, quatre enfants, pas de papa, et il fallait se donner, et puis ça s'était porté, qu'on a fait tous les quatre très volontiers, je pense.
Alors maintenant, il reste la troisième métamorphose. C'est le but. Et là, c'est le but à atteindre pour Nietzsche. Mais ce n'est plus un animal. On va voir quelle est cette dernière étape dans les métamorphoses. Et ça, c'est Zarathoustra qui demande aux gens autour de lui, qui pose la question. « Mais dites-moi, mes frères, que peut encore l'enfant dont le lion lui-même eût été incapable ?» Donc la dernière métamorphose, c'est l'enfant. L'enfant s'amuse, l'enfant découvre le monde, appréhende les choses, et Nietzsche dira ailleurs, il dira l'enfant, il est par-delà le bien et le mal. Un message du texte, c'est devenez des enfants. Comment on peut faire, selon vous, pour devenir des enfants ? Ou j'ai envie de dire redevenir des enfants, si on n'est plus un enfant ?
Si on savait, on aurait fait.
Est-ce que vous êtes capable de redevenir enfant ? C'est ça la question. De jouer.
De jouer, oui.
Hein ?
Mais oui. Jouer, oui.
Donc créer des châteaux de sable ?
Oui. Eh oui. Faire des choses qui ne vont rien du tout, j'adore faire.
C'est créer ça.
Qui ne sont pas demandés par personne.
Il y a une jolie phrase, mais je ne sais plus maintenant qui en est l'auteur, qui dit il faut regarder le monde avec des yeux d'enfant. Et moi, j'ai envie de dire, c'est une perspective qu'on peut essayer de garder, quel que soit son âge. C'est une manière de voir un côté magique, un côté surprenant.
De voir tout ce qui était neuf.
Exactement.
C'est ça que
vous le dites mieux que moi. C'est exactement ça. Un regard neuf. Et il ne se préoccupe pas. L'enfant qui va arracher les ailes d'une mouche, ben c'est un peu comme le chat finalement qui joue avec sa souris. C'est compliqué de dire si c'est de la cruauté. C'est quelque chose. Pour lui, il le fait spontanément. Il expérimente.
Mais je voulais juste dire une chose à propos des enfants. On parle toujours de l'innocence des enfants. Mais pour moi, ils ne sont pas innocents du tout. Depuis très peu, très petits. Ils savent que ça, c'est quelque chose qu'ils ne doivent pas faire, et ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Ils choisissent ça.
Oui, est-ce qu'ils le savent spontanément ? Est-ce qu'on ne leur dit pas ? Est-ce qu'il le sait spontanément de lui-même, ou est-ce qu'on lui fait comprendre que, on lui dit ne fais pas ça, partage ? Ça, c'est des questions que pose Nietzsche.
Beaucoup de choses doivent être dites à lui, mais il y a des choses qu'il peut voir s'il n'est pas un idiot. Il peut voir que mettre le confiture sur le tapis, ce n'est pas exactement ce qui est...
À moins de manger le tapis, mais...
Donc, il n'est pas innocent.
Moi, en tout cas, je vous souhaite d'être de grands enfants et de rester de grands enfants.
Ah bon, soi-même.
Voilà.
Exactement.
Soyons, cultivons l'enfant en nous. Voilà. Ça, c'est une chose à retenir, peut-être.
Et je pense que c'est une bonne conclusion, parce que malheureusement, l'heure avance très vite.
Oui, ça passe très
et
vite.
Votre taxi est là dans 5 minutes.
Ouh. Oh, non.
Ah oui.
On vient d'assister à un atelier de philo dans un centre d'accueil temporaire pour les personnes âgées. Dis donc que vous avez rencontré des sacrées personnalités, Noriane.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que vous pensez en particulier à Jean Vicario,
ouais,
la dame
exact.
Qui a un petit accent anglais.
Voilà, ouais. Elle avait l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir d'être là, non ?
Alors justement, j'ai voulu avoir son retour sur l'expérience. Je suis allée chez elle le lendemain, en plein centre de Clarens.
Bonjour, Jane. Eh ben, j'ai pris les escaliers.
Hein?
Comment allez-vous?
I'm fine.
Merci.
Now, do you want to sit where you can write, or do you want to be comfortable?
We can be comfortable.
Comfortable.
C'est mieux si on parle en français, là. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire de la philo?
Moi, j'ai trouvé vraiment très bien.
Pourquoi c'était bien?
Parce que tout le monde a pu s'exprimer. Il y avait beaucoup de différents points de vue. Les choses qui faisaient réfléchir, c'est pas toutes les choses qui font réfléchir ces jours. Et moi, j'ai trouvé que je devais penser assez fort. J'aimerais que tout les soit comme ça.
Vous dites, il n'y a pas beaucoup de choses qui font réfléchir ces jours.
Je veux dire, quand on se rend compte, on a tendance de parler d'autres choses, de choses à la surface, légères. Mais hier soir, j'ai trouvé profonde. Je ne connaissais pas Nietzsche, mais j'étais enchantée de ce que j'ai trouvé de lui. Et dès que j'ai 2 minutes et 2 sous, je vais au paillot me chercher des livres de Nietzsche et regarder pour moi-même.
Hier, vous avez pu partager des choses de votre propre vécu. Comment ça a fait pour vous?
Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. J'aimerais pas louper une soirée de quatre pour rien du tout.
Je vois, on est dans votre appartement, il y a beaucoup de disques, il y a beaucoup de CD. Et beaucoup de livres aussi. Vous êtes quelqu'un qui aime la culture. Quel est votre parcours à vous de vie?
J'avais beaucoup de chance de mon éducation. J'ai étudié les lettres à l'université de Oxford. C'était superbe. Il y a très très longtemps, mais c'était superbe quand même.
Et vous avez eu un professeur particulier à Oxford aussi?
Oui. J'avais le grand J.R.R. Tolkien.
Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux.
Je suis tellement fière. Il avait un caractère si, si beau, si gentil, qu'on l'aimait beaucoup. À Oxford, on va toujours plus loin possible dans l'histoire.
Et réfléchir, ça reste important pour vous.
Je suis plongée à présent sur la cosmologie. C'est merveilleux. Les choses qu'on apprend, de où on vit dans l'univers. Notre univers, c'est tellement splendide.
Vous avez toujours envie d'apprendre?
Oui, tout à fait. Quand je réfléchis, ma première expérience de cosmologie, j'avais à 8 ans. Parce qu'un oncle, un grand oncle que je connaissais à peine, m'a offert un livre, Les étoiles pour les enfants. Et ça m'a saisi à l'âge de 8 ans. Et c'était encore maintenant que je recommence à voir ces mêmes choses sous une lumière différente, si vous voulez.
C'était Jean Vicario, à votre micro, Noriane Rapin. Et Noriane, vous avez interviewé une ancienne étudiante de Tolkien.
Vous êtes un peu jaloux, Guillaume?
Non, pas un peu, complètement là.
Alors vous voyez, Frédéric Huguenin parlait en début d'émission d'une certaine infantilisation des personnes âgées. Jean Vicario est justement une personne qui a un parcours de vie très riche. Elle a étudié à Oxford, elle a enseigné. Alors, en quoi son âge pourrait bien l'empêcher de penser? D'ailleurs, vous avez remarqué qu'elle était assez en phase avec le thème de l'atelier.
Ouais, complètement. Hein. Elle s'est replongée dans sa passion d'enfance, la cosmologie. Elle s'émerveille devant l'univers. Non, elle est merveilleuse.
Voilà, comme le troisième stade de la métamorphose de l'esprit, l'enfant.
Donc, Noriane, on comprend ce que ces ateliers peuvent apporter aux personnes âgées. Mais du coup, qu'en pensent les professionnels qui les accompagnent? Quel intérêt pour un centre d'accueil temporaire d'héberger de tels ateliers?
Alors j'ai posé la question à Vanessa Pizzo, directrice du Parasol. Elle a un parcours assez particulier, elle a étudié la sociologie à l'université. Elle se destinait pas forcément à travailler avec les personnes âgées, mais les différentes expériences qu'elle a accumulées pendant ses études lui ont fait changer d'avis.
Ok, et quelle est sa vision de l'accompagnement de la personne âgée?
Je lui ai demandé le sens qu'elle trouvait à son travail. Voici sa réponse, Vanessa Pizzo.
Nous ici, la moyenne d'âge est d'à peu près 84 ans. On a des personnes qui ont 98 ans. On se dit, la représentation que les gens ont de cette population est généralement une grosse perte d'autonomie, des gens qui peuvent plus rien faire eux-mêmes. Et en fait, c'est pas le cas forcément. Donc déjà, c'est pour moi... très enrichissant d'accompagner des gens en voyant que justement ils représentent pas le cliché. Et puis la deuxième chose, c'est justement comment redonner aussi à ces personnes l'opportunité d'être acteurs de leur vie, d'avoir encore leur mot à dire et justement de sortir de ce cliché. Parce que c'est sûr que quand on perd un peu d'autonomie, très vite on peut avoir tendance à avoir des gens qui vont vouloir faire à notre place, mais c'est pas en fait ce qu'ils souhaitent. Comme tout le monde, ils ont envie d'être indépendants et autonomes et de décider pour eux-mêmes.
Quand messieurs Huguenin et Loncart sont venus vous proposer un projet d'atelier philo, vous avez dit oui, pourquoi ?
Pour moi, ça rentre justement tout à fait dans l'idée de ce qu'on fait ici. Moi, je veux sortir de l'idée que l'animation auprès des personnes âgées, c'est du tricot et du macramé. Et puis là, on parle vraiment d'apporter de la réflexion, de s'appuyer aussi sur l'expérience de vie de ces personnes qui, je pense, est à valoriser. Hein. Quand on a des dames de 90 ans qui ont un parcours extrêmement riche, je trouve que c'est chouette d'entendre leur expérience. Du coup, pour moi, c'était l'occasion justement de reproposer encore une fois, à travers une nouvelle activité, cet espace de parole qui est donné à la personne âgée et qui change en fait la vision qu'on peut avoir et ce qu'on lui amène au-delà des animations traditionnelles qu'on peut avoir.
Quel est votre souhait, si vous en avez un, pour l'accompagnement des personnes âgées ou la gestion du coup de cette population que vous appréciez? Quel est votre souhait par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer?
Je pense que c'est qu'on se rende compte aujourd'hui qu'il y a peut-être des manières de faire qui sont obsolètes dans l'accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, je parle au sens large, hein, je parle autant des soins que de l'animation, que peu importe en fait des métiers qu'on a. Je pense qu'aujourd'hui on doit revenir à des valeurs qui sont peut-être un peu plus humaines et plus centrées sur la personne, parce qu'en théorie c'est ce qu'on dit, mais après en pratique, ben voilà, on a toujours ces aspects de rentabilité, ces aspects de financement. Les financements sont compliqués. Dans le canton de Vaud, on a de la chance quand même d'avoir des soutiens assez importants de la part du canton, ce qui n'est pas le cas partout en Suisse. Après, ben il y a ces contraintes financières et ces contraintes aussi des financements, des assurances, qui font que ben il y a quand même des objectifs à atteindre et ce qui fait que parfois le temps qu'on aimerait mettre à disposition pour accompagner une personne et simplement discuter, c'est quelque chose qui est difficilement facturable à une assurance maladie par exemple, et puis qui fait que voilà, on va rentrer dans des actes de soins, on va rentrer en fait dans des actes très spécifiques pour pouvoir finalement quantifier en fait ce qu'on fait. Et moi, ça serait de dire, mais vraiment axons tout sur la personne, et oui, il faut que ça tienne financièrement d'une manière ou d'une autre, mais peut-être que là on a aussi des nouveaux modèles à imaginer, je ne sais pas lesquels, mais je pense qu'on a tout à faire pour qu'on sorte des schémas traditionnels de l'accompagnement tels qu'ils sont aujourd'hui.
C'était le témoignage de Vanessa Pizzo, responsable du Parasol, au micro de Noriane Rapin, un témoignage qui clôt ce dossier sur la philosophie au troisième âge, un dossier à retrouver sur notre site rtsreligion.ch.